avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins en direct sur RFI. Aujourd'hui, la famille à l'épreuve des écrans. Il suffit de croiser partout des parents qui sont bien physiquement présents auprès de leurs enfants, mais les yeux rivés sur leur smartphone pour s'interroger. Peut-on encore passer une soirée en famille sans écran? Pour ceux qui ont reçu pour les fêtes des tablettes, des smartphones et autres bijoux de l'hyperconnexion, quelles conséquences sur la vie familiale? Prenez du recul, les voisins et les voisines, et dites-nous à quoi ressemble votre vie de famille avec les écrans. Appelez-nous dès maintenant pour dialoguer avec nos invités et peut-être chercher des solutions ensemble. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro du standard qui vous attend. Vous pouvez téléphoner dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. Dans le studio des 7 milliards de voisins, Olivier Gérard de l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle médias et usages numériques. Également avec nous, Sabine Duflo, psychologue, bonjour. Vous travaillez uniquement uniquement au centre médico-psychologique de Noisy-le-Grand, c'est en Seine-Saint-Denis.
Tout à fait, oui.
Et vous travaillez notamment beaucoup sur la place des écrans dans les familles et puis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages en direct, Facebook, Twitter. N'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone pour participer sans écran à l'émission 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages d'internautes postés sur les réseaux sociaux. Jules, qui est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Une fois que les gens sont connectés, vous avez l'impression qu'il n'y a personne à la maison, vu le silence. L'ambiance, la chaleur familiale sont perdues. Un enfant médusé par une série ou un jeu, les ados qui passent des nuits blanches accrochés à leur tablette. Et pour les parents, c'est la suite du bureau à la maison. Quel dommage. Devant ces outils, toute l'attention est, pour ainsi dire, arraché. Le mot a de l'importance, non? Je ne sais pas si vous pensez la même chose, Sabine Duflo.
Oui, ben là, cet auditeur décrit très très bien le quotidien des familles actuellement, c'est-à-dire au fond l'aspect addictif de l'écran. Lorsqu'on est devant, on ne peut pas s'en détacher, qu'on soit un petit enfant ou un adulte, et chacun est capté par cet écran, et du coup le temps commun, le temps de la famille est volé.
Ouais, et semble-t-il à Lubumbashi, à Dakar et partout, c'est le même problème. Mamadou à Dakar, j'avoue que je reste parfois une semaine sans parler avec mes parents ni avec mes frères et sœurs à cause de la télé et des réseaux sociaux. Visiblement, ils habitent bien sous le même toit. Mais comme plusieurs jeunes de Dakar, on ne discute plus avec les gens. Je suis étranger chez moi, dans mon quartier. Youssou N'Dour avait raison lorsqu'il disait que la technologie a ruiné toutes les familles. Ibrahima, également au Sénégal, nous dit « ça devient problématique pour notre génération. Quand je pense à tous ces jeunes qui n'ont plus de conversation quand ils se réunissent, tellement ils sont occupés par les réseaux sociaux, aimer, partager, commenter, suivre. » Et ce sont des jeunes qui nous écrivent. Pour Inès, à Cotonou, il faut instaurer des couvre-feux technologiques en famille pour aider les enfants à dormir. J'aime bien l'expression couvre-feu technologique. Bientôt, des frères assis côte à côte se diront bonjour via WhatsApp. C'est bizarre. Moi, je me sens une vieille dans la peau d'un jeune. Allez, appelez-nous de vive voix maintenant qu'on discute pour de vrai dans la chaleur humaine au 33 1 84 22 71 71. Le sujet des 7 milliards qui nous occupe, c'est la famille à l'épreuve des écrans.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Olivier Gérard et Sabine Duflo, alors quelle est la place des écrans dans les foyers en France aujourd'hui? Est-ce que même on peut quantifier?
Alors, on sait, on a des études qui parlent de 9 à 10 écrans en moyenne par famille. Alors derrière cette moyenne, il y a beaucoup de réalités différentes. On sait également que la présence d'enfants augmente mécaniquement le nombre d'écrans.
Oui, parce que là, on compte les écrans des téléphones portables, pas seulement des smartphones, y compris un téléphone banal.
Smartphone, écran d'ordinateur, télévision, tablette tactile, tous ces écrans-là. Donc, le fait d'avoir des enfants augmente mécaniquement. Après, au-delà de l'écran, c'est aussi le fait que les écrans sont très souvent allumés en permanence, et tous les écrans en même temps. Donc c'est non seulement la présence d'écran, mais c'est le fait qu'ils fonctionnent. C'est pas uniquement comme on a pu connaître par le passé des écrans qui étaient dans une pièce mais qui n'étaient pas forcément utilisés à des moments. Là, vous avez des écrans qui sont allumés en permanence. Donc c'est il y a une explosion assez forte. Et on n'a pas eu de substitution. On a pensé à un moment que, par exemple, la tablette allait rapidement remplacer tous les écrans.
En fait, on s'aperçoit que
ça s'accumule et que ça s'ajoute et ça se complète et ça devient évidemment pour les familles très compliqué à gérer.
Sabine Duflo, vous diriez que ce phénomène-là est aujourd'hui dans un pays comme la France absolument tout milieu.
Oui. Oui,
complètement. Et que du coup, la question du parasitage des écrans dans la vie familiale se pose pour tout le monde.
Tout à fait. Mon point de vue, c'est que cette gestion des écrans, c'est une question de santé publique. C'est pas une question sociale ou c'est une question de santé publique. Il faut réfléchir aux effets, aux méfaits et proposer faire de la prévention de manière très claire.
Alors, avant d'en arriver quand même à des situations addictives graves, il y a tout simplement un problème quotidien qui n'est pas à traiter médicalement, c'est effectivement le parasitage dans la vie familiale. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous observez, vous?
J'observe que c'est le motif numéro un de conflit dans les familles, ces écrans, tout simplement. C'est-à-dire que les parents viennent me voir, pas pour des questions d'écran, hein. Ils viennent me voir parce que leur enfant écoute pas, il veut pas faire les actions du quotidien, se doucher, etc. Après faire ses devoirs, bon, ok, donc ils ont du mal à instaurer leur autorité de parent. Donc je leur dis, décrivez-moi comment ça se passe, une journée, et à quel moment s'est passée la petite dispute, et qu'est-ce que l'enfant était en train de faire au moment où vous lui avez dit, là, maintenant, ça suffit, va prendre ta douche. Et à chaque fois, mais je vais dire 9 fois sur 10 ou 9 mois et demi sur 10, je vais trouver l'écran. Il était en train de jouer à un jeu vidéo. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas un problème d'autorité des parents qui sauraient plus poser leur autorité, qui sauraient plus être parents. C'est cet objet-là qui est éminemment addictif, qui fait qu'ils ont du mal à poser leur autorité de parent lorsque cet objet envahit la famille.
Alors l'UNAF a fait des études sur les motivations, pourquoi les parents ont introduit autant d'écrans chez eux, pourquoi ils les laissent allumer, pourquoi ils laissent les enfants devant. Il y a réellement des motifs. Les parents ne font pas ça machinalement au départ.
Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il faut pas l'oublier, les parents sont aussi utilisateurs d'écran. C'est vrai qu'on a tendance à souvent parler des enfants. L'une des difficultés, c'est qu'on a des parents qui sont eux-mêmes utilisateurs. Donc déjà, ils les ont introduits pour leur propre usage. Tout à l'heure, était évoqué dans un message d'un réseau social, les parents qui continuaient la journée de travail en rentrant, ça c'est des phénomènes, mais c'est tout simplement un besoin que eux ont d'aller sur les écrans. Ça, c'est quand même une originalité par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. La deuxième, c'est qu'on est dans une société où effectivement on est passé à une société du numérique, des nouvelles technologies, et beaucoup de parents ont équipé leurs enfants en ayant l'impression que s'ils ne les équipaient pas, ou si le plus tôt ils ne les équipaient pas, ils n'allaient pas pouvoir bien s'en servir, et ce serait un peu les pénaliser pour l'avenir. Dans un contexte un peu difficile aussi, on a angoissé par le futur de ces enfants, paradoxalement, l'écran a rassuré certains parents qui se sont dit, voilà, au moins mes enfants sur ça, y compris d'ailleurs de tous les milieux sociaux, enfin nous on le voit, et je confirme ce que dit Sabine, on le voit dans des structures d'accueil de personnes en situation difficile, délicate, avec des ressources très, très faibles, situation de précarité, souvent les écrans sont vraiment la chose sur laquelle les gens ne veulent pas lâcher. On a besoin d'avoir des écrans, il faut absolument qu'on puisse s'équiper. Parce qu'on a besoin de se rassurer, de rassurer aussi les enfants et l'avenir des enfants. Évidemment, rien n'est... les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Assurer un avenir à son enfant ne signifie pas forcément l'équiper, le suréquiper en écran. Mais c'est comme ça que c'est perçu.
Les parents laissent les enfants devant des écrans pour occuper, pour calmer, pour récompenser, c'est ça? Et puis un peu parfois pour apprendre quand même.
Oui, alors en tout cas c'est une des motivations importantes, l'apprentissage. Après c'est souvent aussi parce qu'on sait très bien que l'enfant devant l'écran est capté et que ça nous permet d'organiser notre vie familiale derrière.
Et paradoxalement, les parents, les familles, dans un pays comme la France, même si on prend l'Europe, n'ont jamais eu autant de temps libre avec leurs enfants. Est-ce que vous diriez, Sabine Duflo, que ce temps-là est rétréci par la présence des écrans dans la famille?
Oui, complètement, bien sûr. Et surtout, à cause de ce pouvoir addictif de l'écran, les parents sont dépossédés de leur rôle d'éducateur et finalement oublient qu'ils ont des choses à transmettre à l'enfant, des choses à faire, et parfois sont démunis lorsqu'ils sont face à l'enfant. parce qu'ils ont un enfant qui du coup ne répond, enfin plus essentiellement qu'aux stimulations de l'écran, et eux parents, il faut du temps en fait pour apprendre à être parent, hein, tout simplement. Et ce temps-là, il faut le prendre. Voilà.
La famille à l'épreuve des écrans. On en parle aujourd'hui avec vous. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, que vous soyez grand frère, grande sœur, parents, enfants, peu importe, au 33 1 84 22 71 71. Oh yeah.
Yeah. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
On est en ligne avec un voisin, Baki, qui nous appelle de Lubumbashi, au sud de la République démocratique du Congo. Bonjour Baki.
Allô. Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins, bonjour aux invités aussi.
Soyez le bienvenu, Baki, vous êtes un grand frère, hein, je crois, de 26 ans.
Oui, oui, je suis un grand frère, j'ai mes petits frères et mes petites sœurs à la maison. Mmh. Ils sont tout le temps devant les écrans, la télévision, téléphone, tablette. Et dès qu'il y a coupure de courant, vous allez les voir, ils vont, et que les téléphones et les portables sont low bat, ils vont chercher à, des trucs à faire, ils vont se mettre ensemble, ils vont parler, ils vont discuter. Certains même vont ouvrir des livres, des dictionnaires. On va parler, on va discuter entre frères, entre parents aussi. Et dès que le courant est établi, tous reviennent à leur tablette, à leur téléphone, à la télévision, aux jeux vidéo et autres.
Ouais, donc vous en arrivez à quelle conclusion, Baki?
Bon, la nouvelle technologie n'est pas si mauvaise que ça pour notre génération, mais quand vous voyez qu'il y a coupure de courant et qu'on est ensemble en train de parler, c'est quand même bien, ça fait plaisir à discuter avec mes frères, avec mes sœurs, parce que vous avez remarqué que quand leur téléphone et autres ont la charge, dès qu'ils arrivent, c'est chacun dans sa chambre en train de chatter, en train de surfer, en train de suivre des dessins animaux, des jeux vidéo. Et quand ils n'ont pas ça devant leurs yeux, ben, on discute, on parle, et ça fait du bien de discuter avec les
frères. Ouais, vous êtes nombreux à avoir souligné finalement, enfin, vous êtes aperçus de ce qui se passait quand il y avait des coupures d'électricité dans vos pays respectifs. Hein. Je ne sais pas si vous en arrivez parfois à souhaiter qu'il y ait plus souvent des coupures d'électricité, mais en tout cas, les acteurs politiques qui nous écoutent vont en prendre bonne note.
Pas jusqu'à ce point-là, mais c'est bien des fois qu'il y ait coupure, que leur téléphone et leur tablette ne soient pas opérationnels. Parce que moi aussi, je suis aussi un tout petit peu accro à mon téléphone, mais je peux m'en détacher facilement, ce qui n'est pas le cas de mes petits frères et mes petites sœurs.
Oui, vous avez l'impression d'avoir, vous, du recul par rapport à ce phénomène?
Bon, je pense pas du recul, mais je pense que j'ai quand même... Je peux passer 2 jours, 3 jours sans me connecter. Ça me posera pas de problème, mais ma soeur, par exemple, qui est fait 2 jours, 3 jours sans se connecter, mais elle va devenir folle.
Ouais, merci beaucoup de nous avoir appelé, Mbaki. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Durel, qui est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour, Durel.
Bonjour.
Oui. Est-ce que vous faites le même constat que Mbaki chez vous au Cameroun?
Oui, c'est-à-dire approximativement, c'est le même constat. Oui. Donc, le souci...
Oui, 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 on vous écoute. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins d'Urel.
Oui. Avec le souci des nouvelles technologies, c'est qu'on enlève la communication, tout est fait pour que les gens communiquent, mais paradoxalement, il n'y a plus de dialogue au sein des membres d'une même famille. Donc, ça encourage une communication... non conventionnelle, au détriment de la communication conventionnelle.
Mais alors, vous avez dit au standard que vous essayez de temps en temps d'organiser des soirées sans écran. Je ne sais pas si c'est un mot d'ordre que vous donnez ou comment vous faites.
Étant donné que les parents ne réagissent pas, moi étant le grand frère, j'essaie souvent d'organiser les soirées sans écran. On essaie de jouer des jeux de société, du Scrabble, des jeux de construction de mots. Et il n'y a que les plus petits qui s'intéressent, en fait, peut-être parce que eux, n'ont pas encore eu accès, n'ont pas encore eu leur premier smartphone, leur première tablette. Tout le monde qui est déjà connecté, entre guillemets, ne s'intéresse pas.
Ah oui. Et vous dites, vous êtes le seul à réagir. Vous, le grand frère, vos parents ne réagissent pas.
Oui, parce que eux-mêmes, On va dire que même ils sont un peu, oui, ils sont un peu pris, quoi.
Ouais, devant leur smartphone, eux aussi.
Oui, oui. Mmh.
Restez en ligne avec nous, Durel. Je ne sais pas comment réagissent nos invités, Olivier Gérard, Sabine Duflo. On a l'impression que ce sont les grands frères qui nous appellent aujourd'hui. Sabine Duflo.
Je sais pas, en tout cas pour réagir par rapport à ce qu'ont dit ces deux auditeurs, voilà, ils décrivent un quotidien que moi je retrouve avec les familles. Mbaki disait décrivait de certaine façon le bienfait des coupures de courant. Il faudrait au fond les provoquer, ces coupures, c'est-à-dire déterminer des moments clés où il y a pas d'écran pour que un dialogue dans la famille puisse s'instituer. Ça c'est une chose. Et puis, ce que disait Durel aussi, c'est intéressant. Disons, il organise au fond des alternatives à l'écran avec des jeux où on va jouer ensemble, mais seuls les plus petits y vont. Parce que peut-être se poser la question. Moi, par exemple, une des réponses que j'aurais, c'est les plus grands y vont pas parce qu'ils sont addicts à leurs écrans, mais aussi parce qu'ils n'ont pas appris le plaisir de jouer et qu'il faut le redécouvrir, quoi.
Olivier Gérard.
Mais je crois que la notion d'alternative, de proposer autre chose, c'est essentiel. Effectivement, dans des situations où les enfants ou les adolescents, les parents sont attirés par ces écrans, on ne peut pas espérer qu'ils s'en détachent tout seuls. Il faut leur proposer autre chose. Mais c'est compliqué et il faut recommencer plusieurs fois. Donc moi, j'inviterais Durel à... Effectivement, il a organisé des soirées. Ça peut être décevant la première fois. Il n'y a que les plus petits, les grands, les plus grands sont pas là.
Instaurer finalement un rendez-vous régulier,
ce soir, on passe sans une soirée écran, sans écran. Ou une fois par semaine pour commencer. Et on revient dessus. Et on montre aussi derrière le plaisir qu'on a eu à jouer ensemble avec les plus petits. Parce que ça va intéresser les plus grands à un moment ou à un autre. Les choses ne vont pas se décanter en une fois ou deux fois. C'est, je dirais, un combat, entre guillemets, permanent qu'il va falloir lancer. Et je crois que c'est extrêmement important parce que les écrans, on l'a dit tout à l'heure, ils occupent l'espace vide. Donc à un moment, pour des raisons X et Y, ils ont pris la place. Si on veut les remplacer, il faut proposer une alternative qui tienne la route et qui soit capable de remplacer l'écran. C'est long, c'est un combat difficile, mais c'est la seule solution. En tout cas, c'est une des pistes extrêmement importantes que nous, on n'hésite pas à dire aux parents et aux grands frères, allez-y, proposez des alternatives, rendez-vous disponible aussi, parce que effectivement, on a tous parfois plein d'autres activités et il faut se rendre disponible pour ces temps sans écran. C'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Donc c'est, moi j'y vois plutôt un côté positif malgré tout dans ces deux témoignages. D'abord, ils ont pas abandonné, donc ça, je les encourage à continuer. Il faut continuer et ils ont évoqué aussi le fait qu'il pouvait y avoir des conflits ou des choses comme ça. Sans doute que ça fait partie des phases nécessaires pour s'en sortir.
Durel, vous êtes toujours en ligne avec nous à Yaoundé, au Cameroun?
Oui, tout à fait.
Oui. Durel, est-ce que dans la famille, vous semblez être le seul à avoir pris conscience du problème que posent les écrans, ou est-ce que vos frères et sœurs, vos parents se rendent bien compte de ce qui se passe, mais n'ont pas forcément envie de passer à l'action, de mener un combat, comme le disait Olivier Gérard?
Oui, le papa, lui, s'en rend bien compte, mais il ne réagit pas parce que je suppose qu'il ne sait pas d'exemple, hein, en fait.
Ouais, il sait pas comment s'y prendre, en fait. Hein.
Oui, oui, c'est ça.
Bon, merci beaucoup de nous avoir appelé, Durel. Bien sûr, les voisins et les voisines, on attend vos témoignages. Très nombreux témoignages aussi sur les réseaux sociaux, intéressants. J'en lirai d'autres juste après le flash. Vous nous direz aussi, Sabine Duflo, comment est abordé le problème des écrans, notamment dans les centres de protection maternelle infantile. Enfin, toutes les structures où les familles sont là pour dialoguer sur l'éducation avec leurs enfants et puis la vie familiale. Vous restez tous les deux avec nous, Olivier Gérard, Sabine Duflo. Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash, avec le sujet du jour, la famille à l'épreuve des écrans. Restez bien branchés sur RFI, ça fait pas de mal.
Découvrez en images la Tour Eiffel sous tous les angles, ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, quelle place pour les écrans dans la vie familiale? Peut-on encore passer une soirée en famille sans écran? Et puis, comment limiter tout de même ces intrus dans l'échange familial à la lecture de vos messages? On se rend bien compte que c'est compliqué. On en discute avec vous, Sabine Duflo, psychologue, Olivier Gérard de l'Union nationale des associations familiales. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On a de très nombreux messages sur les réseaux sociaux qui nous font un peu l'effet d'un raz-de-marée avec un cri au milieu de l'océan. Help. Le problème, c'est qu'on est quand même, vous nous le disiez, hein, Sabine Duflo, tous dans la même galère, mais forcément pas tous arrivés aux mêmes extrémités. Je voudrais vous lire le témoignage de cette maman, mère de famille à Kinshasa, Anua. Elle nous dit, voilà, j'étais dépendante totale de l'internet. Mon smartphone était mon compagnon de tous les temps, matin, midi, soir, pas de repos. Je me rappelle qu'au début, je manquais même de préparer le déjeuner et le dîner, de me contenter de manger de la junk food. J'avais 4 cartes SIM de différents réseaux, juste au cas où l'un bégayait. J'avais sur moi les numéros de téléphone du vendeur de cartes pour me dépanner, même dans la nuit, si l'urgence se présentait et que mon forfait était épuisé. Et quand ma batterie était déchargée, je devenais nerveuse, comme une personne en manque de drogue ou de cigarettes. Mais au mois de janvier dernier, le gouvernement congolais nous a imposé une désintox forcée en nous privant d'accès à l'internet pour d'autres raisons, on l'imagine, pendant plus d'une semaine. Et curieusement, j'étais vraiment redevenue une personne normale. La vie de famille se dégrade face à tous ces éléments, mais d'un autre côté, je me suis cultivée grâce à internet. Moi, accro au téléphone, mon fils à la télé et aux jeux, et mon mari, qui est d'une génération de plus que nous, est accro à la radio. Ouais, c'est pas un écran, la radio. Quand même, hein. Enfin bon, quoique si on nous écoute là en regardant l'image, puisqu'on est filmé pendant le direct. Moi j'aimerais, nous dit Anua, vivre dans un village et reprendre le goût de contempler la nature. Hélas, à cause des guerres, on a peur de visiter les villages, de peur d'être kidnappé, violé ou tué. Voilà, c'est quand même un constat d'addiction qui est largement partagé, non, j'imagine. Qu'en pensez-vous à tous les deux, Sabine Duflo?
Oui, elle
pas peut-être elle dit, pas autant, mais
ce qui est intéressant dans le témoignage de cette auditrice, c'est que plutôt que décrire l'état de ses enfants, elle reconnaît qu'elle-même il y a une addiction. Elle reconnaît aussi d'une certaine façon que cette passion ou cette addiction pour les écrans, ça lui permet aussi d'échapper à quelque chose peut-être qui est ennuyeux, comme finalement cuisiner, s'occuper des enfants. Et au fond, ce qu'elle recherche, c'est plutôt une juste régulation. C'est ça, et c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Voilà.
Toute la difficulté aujourd'hui, hein, finalement, Olivier Gérard, c'est que les parents sont dans la même galère que les enfants, ce qui n'était pas forcément le cas autrefois avec la télé. Les enfants étant devant la télé pendant que les parents vaquaient aux tâches domestiques, oui. Etc.
C'est vraiment un constat frappant, c'est que lorsqu'on regarde les pratiques. L'équipement et les pratiques d'usage des écrans en général, on s'aperçoit que les parents et les adultes en général sont très 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 concernés et sont eux-mêmes dans les mêmes logiques. Donc cette dimension-là est à intégrer parce que c'est très compliqué derrière d'accompagner ces enfants quand
alors,
on est soi-même concerné.
Donc ça pourrait faire l'objet d'une vraie discussion en famille où tout le monde est dans le même bateau.
Et ça doit faire, et nous on insiste vraiment pour qu'on arrive à un moment à se poser en famille, entre parents, grands-enfants, adolescents, petits-enfants, et discuter de ces écrans. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous enlève aussi? Ça doit faire partie des moments forts. Mais encore faut-il que l'un des membres, parfois, arrive à mettre en œuvre
parce que là, on lance la discussion à la radio. Alors évidemment, tout le monde poste son message. Mais quant à en discuter en famille, c'est déjà plus compliqué. On accueille une voisine. Sikiratou nous appelle de Dakar au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Sikiratou.
Bonjour Emali.
Soyez la bienvenue. Alors, quelle est votre situation? Plutôt, quelle est la place des écrans dans votre famille?
Nous, on a vraiment limité l'usage de tout ce qui est écran, téléphone, télévision, tablette, tout et tout.
Oui.
On a commencé, j'ai 4 enfants, disons, dont un bébé de 6 mois.
Oui.
Et dès que mes enfants ont commencé à avoir des exercices, c'est-à-dire dès qu'ils ont fini la maternelle, je me suis dit, pour bien les suivre, pour bien les encadrer, il vaut mieux mettre une croix sur la télévision. Donc, ça fait 7 à 8 ans qu'on a régulé l'usage de la télévision.
Oui.
Donc, exceptionnellement, les enfants regardent la télévision durant les congés et pendant les grandes vacances.
Oui.
Et pour pouvoir réussir ça, moi et mon mari, on a fait violence sur nous-mêmes.
Ah oui.
On ne regarde pas du tout la télévision en pleine année scolaire, même pas le week-end.
C'est ça, alors que vous pourriez avoir envie de regarder le journal, par exemple, pour être informé.
Du coup, on se rabat sur la radio pour écouter les informations.
Eh bien, très bien, on est ravis. Continuez comme ça à nous écouter. Non, mais néanmoins, il n'y a pas que la télévision chez vous, non? Qu'est-ce que vous avez comme type d'écran?
J'ai des
smartphones,
tablettes.
Ouais. Ah oui, tablettes.
Des smartphones, des tablettes, mais tout ça aussi, c'est régulé. C'est-à-dire, je leur dis, s'il n'y a pas d'exercice, s'il n'y a pas de leçon, actuellement, nous sommes en congé, par exemple. Les enfants sont en congé.
Ouais.
Et le matin, tout, c'est des exercices. À la limite, je leur laisse la tablette dans l'après-midi ou la télévision.
Ouais.
Mais ce que je voudrais dire aux auditeurs qui m'écoutent, c'est de faire un travail d'information, de sensibilisation et de communication à la base.
Oui,
parce que sans ce travail, on ne peut pas arriver à un bon résultat. Parce que la télévision aujourd'hui, c'est bien bon, mais ça n'existe plus comme en notre temps.
Ouais, d'accord, mais d'information, je ne sais pas quel âge ont vos enfants en dehors du petit dernier qui est tout bébé. Est-ce que...
La plus grande à 13 ans, la seconde à 11
d'accord.
ans et le troisième à 8 ans. Et alors... C'est un travail qui a commencé quand ils ont eu 5 ans minimum. Ouais.
Et alors vous leur dites quoi comme information?
On leur dit que la télévision c'est bon, mais le travail c'est encore mieux. On leur dit, par exemple, il y a une heure au-delà de laquelle les enfants ne regardent pas la télévision.
Ouais.
Même durant les congés, au-delà de 22h, 23h, pas de télévision. Il faut aller dormir. Mmh. Et parfois, nous, à la maison, avec leur papa, on improvise des jeux pour pouvoir discuter. Pour pouvoir communiquer, pour pouvoir développer une certaine complicité avec les enfants.
Ouais, c'est ça. On sent que c'est vraiment un combat chez vous, en fait, hein, cette lutte contre une place trop envahissante. Oui, c'est ça. Malgré tout,
c'est
facile, vous le dites vous-même, ça n'est pas facile.
Les parents qui doivent faire violence sur eux-mêmes d'abord.
Et vous en parlez autour de vous, là, vos voisines, voisins?
Oui, bon, j'en parle avec des collègues au bureau, avec des amis. Bon... C'est pas évident, mais moi, c'est mon point de vue, nous, c'est notre point de vue à la maison.
Vous avez le sentiment qu'autour de vous, on baisse trop facilement les bras?
J'ai l'impression. J'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, pour être à la mode, il faut regarder la télévision, regarder les émissions, avoir plusieurs écrans, mais c'est pas ça. Le problème, c'est l'éducation. Et il faudrait que les parents mettent un point d'honneur, mettent la priorité sur ça.
Oui.
Cette éducation.
Mais vous parlez de ça, mais vous n'êtes pas enseignante vous-même, hein, néanmoins.
Non, je suis pas. Je suis journaliste de formation,
Là,
je suis dans le domaine de la communication.
D'accord. Très bien. Donc voilà pourquoi toute la communication doit avoir sa place dans la famille. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Sikira, tout très bonne journée à Dakar. On accueille Ndeya qui est à Dakar également. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Voilà, une voisine également. Alors vous êtes plutôt une grande sœur, non?
Oui, je suis une grande sœur.
Oui.
En fait, ma maman ne vit pas avec nous.
Oui.
Maintenant, quand elle rentre, nous passons notre temps à nous regrouper dans notre chambre. Maintenant, cette année-ci, on a fait une remarque qu'une fois, quand on était tous ensemble dans sa chambre, tout le monde s'était braqué sur son smartphone.
Oui.
Pendant 5 minutes, tout le monde s'était tu.
Oui.
Et elle nous regardait. Elle a dit, allez, stop, donnez-moi tous les smartphones. Et discutons de tout et de n'importe quoi. Maintenant, elle avait confisqué les smartphones pendant une journée.
Oui.
Et vraiment, je me suis rendu compte qu'on était vraiment passé à côté. Puisque les habitudes qu'on avait quand on était petit, on les a vraiment perdues à cause de ces gens-là.
Mais alors, aujourd'hui, vous avez quel âge, Ndeya? Vous avez 24 ans, c'est ça?
Oui, moi j'ai 24 ans.
Mais est-ce que votre mère peut encore vous dire ça?
Oui, bien sûr, on est en Afrique, ça ne nous dérange pas du tout qu'une maman dise ou fasse une suggestion à sa fille.
Oui,
donc ça ne m'a pas du tout dérangée.
Vous restez en ligne avec nous, Ndeya. Passez-moi tous les smartphones, maintenant on discute. Ce type d'injonction, qu'est-ce que ça vous évoque, Olivier Gérard?
Ça peut être une bonne solution. Nous, on incite aussi, par exemple, à mettre les smartphones dans un panier à l'entrée de la maison et tout le monde pose son smartphone quand on rentre du travail, de l'école, et on n'a pas besoin d'être connecté en permanence à son smartphone. Donc ça peut être des petites pistes. On peut le faire même de manière ludique avec les enfants pour éviter, pour permettre cette rupture là justement et retrouver des moments ensemble. Ce qu'on constate, c'est que ça peut paraître une solution comme si une solution telle que celle-là allait régler. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, des petites pratiques comme ça, des bonnes petites pratiques, c'est énorme. Et ça fait déjà beaucoup avancer les choses parce que ça permet à un moment de s'apercevoir que la vie familiale, elle est très riche sans ces outils-là et qu'il n'y a pas besoin de ces outils-là pour avoir des activités passionnantes en famille. Nous, on conseille en fait, aller sur des bonnes pratiques.
Ouais. Ndeya, vous voulez réagir à Dakar ?
En fait, moi, je la comprends puisqu'elle est venue en vacances, donc pour quelques mois.
Ouais.
Donc nous sommes avec nos smartphones 365 sur 365.
Ah oui, oui, d'accord.
Donc ça se comprend qu'elle ait une réaction de la sorte.
Oui, c'est ça, de faire de ce moment où vous retrouvez votre mère pour quelques jours, quelques mois en tout cas, soit un vrai moment de retrouvailles.
Oui, c'est ça.
Mais Sabine Duflo, vous, en tant que psychologue, comment vous travaillez avec les familles, justement, pour essayer de limiter la place des écrans?
D'abord, j'évalue si cette place est trop importante ou pas, en leur demandant de me décrire leur quotidien, du matin au soir. Qu'est-ce qu'ils font heure par heure, l'enfant et ses parents? Et là, ça me permet d'évaluer le temps consacré aux écrans. Si je m'aperçois que ce temps est trop important, alors je propose une règle que j'appelle la règle des 4 pas ou des 4 temps sans écran. Parce que moi, je crois, comme ces auditeurs, qu'il faut libérer des temps sans écran. Il faut des coupures de courant plutôt que des injonctions de temps limité par âge, etc., qui ne fonctionnent pas dès qu'on a une famille nombreuse. Donc, les temps que je préconise, ça rejoint finalement ce que dit votre auditrice Sika, là, qui a trouvé le bon truc, hein, c'est-à-dire ces quatre.
Non, mais avec des enfants jeunes, Sika Ratou, elle avait des enfants, voilà.
Elle a des enfants,
de 13 ans. Hein.
Moi, je m'y retrouve assez parce que mes enfants, ils ont entre 9 et 15 ans. Donc, on s'est tous posé les mêmes questions en tant que parents. Et donc, d'abord, évidemment, donner l'exemple, mais ces quatre temps, ça va être jamais le matin parce que c'est le moment où l'attention, les capacités attentionnelles sont les plus fortes et il faut les libérer pour les apprentissages. Donc pas le matin, pas pendant les repas parce que ça nuit aux interactions familiales. Et souvent le repas le soir est le seul moment familial préservé dans nos vies. Pas avant de se coucher parce que ça nuit à la qualité du sommeil et ça retarde l'entrée dans le sommeil. Et puis pas de connexion internet, de télévision dans la chambre de l'enfant. Voilà. Déjà, si
vous voulez réagir par rapport aux préconisations de Sabine Duflo, psychologue.
Oui, oui. Bon, concernant la communication, par exemple, mon cas, moi, ma mère me faisait le petit déjeuner. Ouais, ça se comprend. Elle ne travaillait pas.
Ouais.
Mais ça a été vraiment une base pour nous. Pour la communication, puisqu'on mangeait ensemble.
Ouais, bien sûr.
On était ensemble tout le temps.
Ouais.
Donc, le matin, c'était vraiment un moment vraiment intéressant, important pour nous.
Ouais.
La nuit, c'était pour les papas, on s'occupe des vieux, mais le matin, c'était pour nous.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'imagine que le soir, pour le repas du soir, il n'y a pas d'écran non plus, bien évidemment.
Non, non, pas respect pour les grands, pour les aînés. On ne répond même pas aux messages.
Oui, c'est ça. Toute la question est combien de temps dure le repas? Parce que j'ai l'impression aussi que le repas a tendance quand même
à diminuer.
Eh ben oui, à diminuer parce que les jeunes, les enfants, tout le monde est pressé de retourner à ses écrans, non? Ou pas d'ailleurs, Olivier Gérard?
Mais c'est l'une des difficultés, c'est qu'effectivement, raisonner sur des moments, pas d'écran pendant le repas, le risque, c'est que le temps du repas diminue. C'est pour ça que moi, je partage totalement les quatre principes évoqués par Sabine. Mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire à un moment aussi réussir à instaurer ce dialogue, cet échange sur et que tout le monde prenne la réflexion, le temps nécessaire de la réflexion sur finalement l'écran, ce que ça nous apporte, la place de ces écrans. J'ajoute d'ailleurs, parce qu'on l'a un peu évoqué, mais c'est un point important, c'est que lorsqu'on est dans des situations où chacun est face à ses écrans, une première manière d'aborder ces questions-là, c'est peut-être d'essayer de trouver un temps sur écran en commun. Ça peut paraître, parce que c'est vrai qu'on constate souvent que chacun est devant l'un la télévision, l'autre un jeu vidéo, le troisième les réseaux sociaux. Peut-être que par exemple partager un temps en commun autour du même écran, c'est déjà une première amorce pour revenir sur un temps en commun et aborder cette question des écrans. Parce que lorsque vous n'êtes même pas sur les mêmes écrans, comment voulez-vous parler des écrans entre vous,
oui, chacun oui, ayant regarder sa propre, un film voilà, en famille.
Ça peut permettre d'aborder la question du film, de l'écran, etc. Ça peut être une première piste aussi.
Oui, là je vais rebondir en parlant juste alors d'une anecdote personnelle. Moi j'ai mis en place, enfin c'est mes enfants qui m'ont suggéré, ils ont très envie de partager ce qu'ils ont vu. Donc de temps en temps, le soir, on a, et c'est là pour le coup après le repas, on a une heure devant l'ordi où chacun montre quelque chose qui lui a plu dans la semaine. Et on a le droit à un timing d'un quart d'heure. Donc ça peut être une chanson, un truc rigolo, voilà. Bon, et c'est des moments qu'ils adorent. Donc ces moments où, qui sont des moments effectivement regroupés, quoi, de
nos repas. Nous, enfin voilà, l'un des messages qu'on dit, c'est le numérique, les écrans peuvent aussi pour les parents être utiles pour remettre de la fonction parentale, c'est-à-dire d'organiser la vie ensemble, le temps ensemble, vivre ensemble, pour ensuite aller sur d'autres alternatives où les écrans seront moins présents. Mais on passer d'une situation où chacun est devant un écran isolé à une situation antérieure, c'est compliqué. Donc, il faut trouver sans doute des passages, des paliers.
Pas forcément chercher le couvre-feu technologique dont nous parlait Inès.
On peut aussi imaginer des pratiques positives pour toute la famille sur les écrans, parce qu'il ne faut pas non plus avoir une vision totalement négative.
J'insiste quand même, c'est important, ces temps sans écran. Alors, au début, peut-être que les repas vont être courts, mais tout simplement parce que l'enfant ou l'adulte va penser qu'à une chose, c'est retrouver son écran et ne sait pas quoi dire. Mais on découvre le plaisir de la famille en instaurant des moments de famille. Hein. Donc, il faut les créer, ces temps-là.
Ouais. Alors, beaucoup d'auditeurs qui souhaitent participer aux discussions « La famille à l'épreuve des écrans » en cette semaine d'entre les fêtes. Peut-être certains ont reçu justement des écrans pour les fêtes de Noël. 33 1 84 22 71 71. Qui avons-nous au téléphone tout de suite? Désiré. Désiré est à Liverpool. Bonjour Désiré.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en Grande-Bretagne donc, hein?
Oui, c'est ça, voilà.
Donc, nous vous écoutons.
Oui, donc je voulais témoigner parce que en fait, j'ai un vrai souci chez moi avec les smartphones, les ordinateurs, la télévision. Et je cherche une solution pour pouvoir pallier à cette situation, mais je ne trouve pas. C'est pour ça que je vous appelle au secours. En fait, j'ai acheté un smartphone à mon fils qui a 14 ans, à ma fille de 10 ans.
Ouais.
Je suis ingénieure en informatique de base et donc je travaille à la maison. Seulement, mes deux enfants sont en immersion totale dans les écoles anglaises, donc j'essaie de les inscrire aussi en même temps au CNED pour qu'ils restent toujours dans l'éducation française.
Ouais.
Malheureusement, ma fille, c'est impossible de lui faire faire ses devoirs parce qu'à chaque fois qu'on commence les devoirs avec elle, c'est des crises. Elle part à l'école avec son téléphone, parce qu'en fait on devrait pouvoir la joindre à la sortie des classes, et donc quand elle rentre à la maison elle reste encore sur son téléphone. Et donc ça fait
ça
que...
c'est votre fille qui a 10 ans et qui a donc déjà un téléphone, hein.
Voilà. Et donc ça fait que au dépend de l'anglais, elle laisse un peu le français à côté parce que comme elle parle l'anglais à l'école et quand elle rentre à la maison, on fait tout pour que les enfants parlent, que continuent à parler le français.
Bien
donc
sûr.
On leur parle en français à la maison. Seulement nous on a constaté comme quoi elle parle maintenant, elle a des difficultés en fait à s'exprimer en français. Et donc on essaie de lui faire les lectures en lui achetant des BD en français et en lui achetant des livres en français, mais elle a du mal à les lire.
Et vous avez donc le sentiment que c'est le smartphone qui est au milieu de ce conflit finalement.
Voilà, parce que pour la décrocher de son smartphone, c'est vraiment, il faut se bagarrer avec elle pour qu'elle décroche de son smartphone.
Sabine Duflo, est-ce que vous pouvez alors justement répondre à Désiré, Sabine?
Oui, Désiré décrit une expérience qui est vraiment commune à beaucoup d'autres mamans et papas, c'est-à-dire il faut se battre, il faut arracher l'enfant, c'est les termes qu'on voit. Alors, derrière ça, il y a le problème d'une régulation quasi impossible de l'enfant face à cet objet. C'est-à-dire prôner, comme on l'entend parfois, une autorégulation, c'est une utopie.
Alors, est-ce qu'il faut supprimer carrément le
smartphone à 10 ans ? Oui, je pense qu'il y a des moments clés où l'enfant, par exemple, 10 ans, ça me semble un peu tôt. 14 ans, l'enfant a déjà mis
un peu tôt pour avoir un smartphone. Vous voulez dire.
Oui, tout à fait. 14 ans, l'enfant est déjà plus construit, il a développé d'autres goûts, d'autres appétences, et voilà. 10 ans, c'est tôt.
Donc, Donc maintenant, quelle est la solution puisque elle a le smartphone.
Eh bien le retirer tout
le
simplement.
Retirer complètement.
Ouais, bien sûr, c'est sa maman.
C'est envisageable ou pas ou c'est vous elle a acquis un smartphone pour des raisons de sécurité. Vous aviez besoin de savoir quand elle était non parce que vous êtes à la maison vous-même Désirée. Donc est-ce que votre fille
à la maison.
Donc est-ce que votre fille a vraiment besoin d'un smartphone. Vous le savez quand elle est rentrée à la maison.
Oui, mais en fait le problème c'est qu'elle veut pas qu'on vienne la chercher à l'école.
Oui.
Donc il y a
ça vous tranquillise
il y a le collège.
Oui.
Et les enfants du elle a peur des enfants du collège parce que des fois quand ils sortent de l'école, ils se tapent, ils se battent en fait à côté. Donc lui ça lui elle ça lui
d'accord.
fait peur.
Bon, alors là le smartphone a un intérêt de sécurité en fait hein.
Oui, voilà, c'est ça.
Bon, mais quand elle rentre à la maison, est-ce qu'on peut pas envisager le smartphone rangé
En fait, quand elle rentre de l'école, tous les deux d'ailleurs, quand ils rentrent de l'école, je leur mets un caisson dans lequel normalement ils doivent mettre leur téléphone dedans.
Ouais.
Mais c'est jamais respecté.
Ah. Ouais, bon, c'est pas simple, hein. Néanmoins, vous avez quand même les bons réflexes.
Alors, il y a quand même un point important, c'est qu'on évoque la question du smartphone. Or, aujourd'hui, on peut parfaitement imaginer, j'entends bien l'argument de sécurité, on a mené une étude qui montrait que c'était la principale raison qui justifiait l'achat du téléphone. Revenir à un petit téléphone avec un accès Internet qui n'est pas permis, n'est pas autorisé, on peut paramétrer le téléphone portable.
Voilà.
Et si l'objectif, c'est de sécuriser qu'elle puisse appeler parce qu'elle est inquiète, on l'entend parfaitement. Mais déjà, si on lui
on l'empêche d'accéder ensuite à Internet, de retour à la maison.
On l'empêche d'avoir un smartphone. Vous verrez que les crises et les usages déviants du smartphone seront grandement limités.
Bon, désirez vous acheter vite un petit téléphone qui coûte autour de 10 € pour équiper votre fille, hein, au moins temporairement. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Nous sommes en ligne avec Amadou qui est à Bambay.
Oui.
Amadou, vous êtes enseignant à une centaine de kilomètres de Dakar, au Sénégal.
Absolument, je suis professeur d'informatique à l'école Sainte-Croix de Bambay. Mm-hmm. Alors moi, j'ai constaté qu'avant 2004, au Sénégal, les résultats scolaires pour les élèves étaient vraiment très satisfaisants. Mais après 2004, avec la démultiplication des chaînes de télévision, les nouveaux gadgets technologiques, les smartphones, les tablettes, maintenant, les élèves ont des problèmes pour se concentrer dans les salles de classe. Je suis vraiment très bien placé pour le dire. Et ce qui me fait un peu mal, c'est que les responsabilités sont partagées. D'une part, ce sont les parents. D'autre part, c'est l'État. Pourquoi je dis ce sont les parents? Parce que des enfants qui ont des smartphones, qui, quand ils viennent en classe, par exemple, ils sortent pour voir des séries qu'ils avaient, par exemple, ratées hier.
Ouais.
Ou bien des élèves qui sortent en classe pour parler avec leurs copains, leurs copines sur Facebook.
Sur Facebook, oui. Non, vous posez un vrai problème. Hein. Merci beaucoup, Amadou, de nous avoir appelé. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus sur le lien entre écran et réussite scolaire pour vous, Sabine Duflo?
Oui, concernant en tout cas la télévision, l'écran le mieux connu, c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire, plus un enfant passe de temps devant la télévision, plus ses chances de réussite sont moindres, quoi, sont diminuées. Ça, c'est clairement établi. Je cite souvent comme référence le livre de Michel Lémurger, TV Lobotomie, parce qu'il cite toute une série d'études là-dessus.
Peut-être avant de se quitter, on peut rappeler les quatre principes pour vous, Sabine Duflo, qui devraient réglementer un peu la place des écrans dans la vie familiale.
Oui, c'est quatre temps sans écran, donc pas le matin, même pendant le week-end et les vacances, c'est idéal.
Donc rien au petit déjeuner, c'est
voilà,
ça.
Voilà, oui. Pas pendant les repas familiaux, pas le soir, juste avant de se coucher, et pas de connexion Internet et télévision dans la chambre des enfants, c'est-à-dire pas avant 10-11 ans, en entrant au collège.
Bon, on a Ibrahima qui nous pose une question, on n'a pas le temps de la prendre au téléphone malheureusement, et qui nous dit que sa femme est complètement addicte à tout ce qui est technologique, écran, etc. Du coup, plus du tout de vie de couple, parce que ça aussi, hein, il n'y a pas seulement le problème avec les enfants, on l'a dit, Olivier Gérard, parents, ça pose aussi un problème dans la vie des parents.
Oui, tout à fait. Il y a des difficultés conjugales qui s'expliquent par l'apparition de ces écrans-là. c'est pas un phénomène à minimiser. Effectivement, il y a des sentiments d'isolement ou de solitude vécus par l'un des deux membres du couple qui peuvent aller jusqu'à des ruptures. Mais là, à nouveau, ça doit passer par l'échange de dialogue. Il faut surtout pas attendre que la situation s'aggrave. Il faut essayer de repérer les moments où on va avoir des pratiques excessives, voire déviantes, le plus tôt possible pour pouvoir en parler. De toute manière, moi, je considère que face à ces écrans-là, il faut en parler avec le plus tôt possible, avant même l'équipement, avant même les premiers achats, parce que on a beaucoup parlé de ceux qui avaient déjà des enfants équipés, mais parlons des parents qui, des futurs enfants qui vont arriver, des bébés qui naissent aujourd'hui. Et la question
Que vous posez, qu'est-ce qui va se passer quand la jeune génération qui n'a connu que la vie avec des écrans, qui ne sait absolument pas quoi faire sans eux, que se passera-t-il quand cette génération-là aura à son tour des enfants?
On peut espérer qu'à travers ce qui se passe aujourd'hui, va naître, avec tous les efforts qui sont faits, une prise de conscience, une recul qui permettra de mieux réguler les écrans. Mais bon, moi je ne sais pas.
Je trouvais intéressant qu'aujourd'hui ce soit les grands frères et les grandes sœurs qui vous appellent et pas les parents. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une prise de conscience de cette génération, disons, intermédiaire, quoi.
Mmh. Oui. Bon, il faudra peut-être imaginer des consultations obligatoires sur le sujet, non, je ne sais pas. Merci en tout cas à tous les deux, Olivier Girard de l'Union Nationale des Associations Familiales, donc l'UNAF, et Sabine Duflo, psychologue. Merci à vous aussi pour les voisins et les voisines, pour vos témoignages extrêmement intéressants. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission du lundi au vendredi. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo aujourd'hui, Marjorie Adelson, Romain Dubrac, Yann Bourdelas. Pour toutes vos réactions, bien sûr, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Et demain, 7 milliards de voisins, alors on sera tous au fourneau, hein, nous parlerons des cuisines africaines avec vos meilleures recettes, les voisins. Vous postez dès maintenant, bien sûr, sur Facebook et on se parle demain en direct. À demain, les voisins.
RFI Lens, RFI Challenge App Afrique. Un